When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
What have you done?
I'm so sorry. We're both sorry. I was telling her the story.
It just fell out of my hand.
We'll search and find another one, I promise.
Quiet!
Bienvenue dans ce nouvel épisode de TFTC, le podcast. À mes côtés dans ce studio, Johan et Aurélien. Comment ça va les mecs?
Ça va très bien et toi?
Écoutez, moi je vais très bien puisqu'aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Xavier Legrand. Comment vas-tu?
Très bien aussi.
Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore?
Bien oui, je suis Xavier Legrand et je suis scénariste et réalisateur. Pourquoi pas? Oui, j'ai réalisé mon premier long métrage Jusqu'à la garde qui est sorti en 2018. Et là, c'est mon second long qui sort, qui s'appelle Le successeur.
Justement, on aura le temps d'en reparler. Je vais un peu revenir sur ta carrière comme ça au milieu du podcast. Mm-hmm. Et j'espère que tu auras plein de petites infos pour moi, plein de petites anecdotes. Pourquoi pas? On verra tout à l'heure. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur un film qui a marqué l'année 2017, Mother. Écrit et réalisé par Darren Aronofsky, Mother est un film difficilement pitchable car sujet à plusieurs interprétations, mais si l'on devait écrire un synopsis, il ressemblerait plus ou moins à ceci. Un couple vivant dans une maison de campagne isolée reçoit un soir la visite d'un homme qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Il se dit médecin et cherche un endroit où dormir. La femme ne souhaite pas l'accueillir, le mari oui. Pour ne pas spoil, ça ressemblerait à ça. Les actrices et acteurs à l'affiche de ce film sont Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris ou encore Kristen Wiig. Mother, lors de sa première, a été accueilli froidement à la Mostra de Venise et a reçu des critiques mitigées de la part du public et des critiques, en plus d'avoir difficilement remboursé son budget initial de 30 millions de dollars. Ceci étant dit, ce film n'en reste pas moins une œuvre qui a marqué les années 2010. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Dans quelles conditions l'avez-vous vu pour la première fois? Et je vais commencer avec Xavier.
Ouais. C'est un film que j'ai découvert, que j'ai eu la chance de découvrir à la Mostra de Venise, parce que j'étais aussi en compétition contre ce film.
Ah, incroyable. Ouais, c'est bon, j'ai déjà mon anecdote qui est pas mal dès le début.
Ouais, ouais. Je présentais Jusqu'à la garde et moi je débarquais un peu, j'avais juste fait qu'un court-métrage, donc être à la Mostra déjà c'était quelque chose d'inouï pour moi. Et j'ai découvert ce film parce que j'avais pas encore présenté le mien, je crois que le mien était diffusé officiellement le lendemain ou le surlendemain. Donc je débarquais un peu avec toute mon équipe et je me suis pris moi vraiment le film dans le corps, hein. C'est-à-dire que j'ai d'ailleurs la plupart des gens de mon équipe sont vraiment restés sur le quai. Moi je suis rentré dans le train mais vraiment avec même le pilote quoi, et je suis sorti rétamé vraiment en pleurs, enfin vraiment tout le symbole du film je l'ai perçu, je l'ai reçu et à ce moment là je me suis dit bon là il y a un grand film.
Alors justement on va y revenir plus tard parce que le film comme je le disais est sujet à plusieurs interprétations. Manifestement tu avais déjà la tienne dès le premier visionnage.
Alors je l'ai comprise après le film, mais je l'ai comprise, je veux dire intellectuellement, mais je pense ressenti dans le corps, toute la symbolique du film, je l'ai assez perçu, mais sans en prendre conscience au moment du visionnage. Quoi.
Très bien, Johan.
Moi je l'ai vu à la Mostra de Venise.
Ah.
Non pas du tout.
Oui ça va être moins glamour.
Oui d'un coup on va retomber dans l'étage. Moi je l'ai vu lors d'un premier date, figurez-vous. J'avais rencontré une jeune femme quelques jours auparavant. On s'était dit que c'était une bonne idée d'aller voir ce film ensemble. Bon, on l'a vu au Max Linder, bien installé, avec nos petites bouteilles d'eau. Et puis, spoiler, quand on est sorti du film, on n'avait plus du tout envie de se pécho. Je suis rentré chez moi.
Et ça met dans un mood.
Ça met dans un certain mood qui n'est pas forcément celui de la séduction, effectivement. Mais et quant à l'interprétation qu'on a eue du film, j'avoue que sur le coup, on n'a rien compris. Donc quand on s'est posé un peu pour débriefer le film, moment toujours un peu compliqué, bon, bah, ce qui m'a aidé, en fait, c'est de regarder sur Allociné. Voilà. Donc voilà, mais par contre, je l'ai reçu de façon très... C'est-à-dire que autant j'ai pas trop compris ce que je voyais, autant je ressentais le film. Et ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup marqué à l'époque.
Aurélien ?
Eh bien, moi, je l'ai vu hier. Parce que j'avoue que j'avais raté ce film quand il est sorti au cinéma. Et je savais que c'était un film dans lequel il fallait rentrer. Et je pense que c'est plus dur de le voir autrement que dans le cinéma. Quoi, parce que maintenant qu'on est un peu abreuvé de plein de choses, de couper, etc. Et en fait, c'est un peu ce que ça m'a fait. Dès que ça commençait à être un peu plus difficile à entrer dedans ou à comprendre, bah, je sentais que je commençais à décrocher. Mais j'ai quand même eu un rapport assez viscéral avec le film. C'est-à-dire que j'ai pas essayé de le comprendre. Mais j'ai senti beaucoup de choses et je trouvais qu'il y avait peu de dialogues et peu de choses justement explicites et énormément de, bah, je sais pas, d'éléments qu'on prenait de manière viscérale, comme tu disais, Xavier, que je trouve hyper intéressante. Donc voilà, c'est très récent, ça date d'hier, mais je suis en train de justement me prendre tout.
T'es en process encore.
Ouais, là, je suis complètement en process de tout, d'essayer de comprendre des choses et je continue encore à... Donc ça veut dire que c'est un grand film pour moi parce que... En fait, à partir du moment où tu en récupères quelque chose et que tu continues à y réfléchir des jours après l'avoir vu,
bien sûr,
des heures pour l'instant, ça veut dire que c'est fort.
Moi, je me souviens que je l'avais vu au cinéma dans une salle complètement comble et je me souviens de l'effroi de la salle. Ça, c'est un vrai souvenir. C'est-à-dire qu'on sent l'effroi qui monte.
Ouais.
Et je l'ai revu hier. Donc c'était la première fois que je le revoyais depuis ce visionnage au cinéma. Et je l'ai revu hier et ce qui m'a vraiment marqué, j'avais pas vraiment capté ça à l'époque, mais c'est la façon dont... finalement, Jennifer Lawrence, c'est nous dans ce film. C'est-à-dire que c'est comme un FPS dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que c'est un film filmé à la première personne. C'est-à-dire que Jennifer Lawrence, en gros, c'est le personnage, il y a plein d'interprétations, mais c'est surtout nous parce que c'est la seule personne rationnelle dans le film. Tout est irrationnel autour, et la seule personne qui est rationnelle comme nous, c'est Jennifer Lawrence. Et moi, je me souviens que... alors, à l'époque, j'avais pas... En fait, j'aime ce genre de film parce que chacun peut le récupérer. C'est-à-dire que chacun en fait sa propre interprétation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Darren Aronofsky en parle rarement. Il s'est un peu épanché sur le sujet quand même en donnant un début d'interprétation. Mais en général, c'est un film qui laisse comme ça au public. On lui dit, fais-t'en ta propre interprétation. Et une interprétation que je n'ai pas vue sur les réseaux et que moi, je m'étais fait à l'époque, c'était celle des réseaux sociaux. Ce n'était pas la même époque, 2017-2024. Il y avait un truc en 2017 où sur les réseaux sociaux, on laissait comme ça entrer les gens dans notre intimité. Et moi, j'avais vu un parallèle comme ça avec les réseaux sociaux. Alors, je me suis amusé à noter plein de trucs hier en le revoyant. Mais je m'étais dit, c'est une allégorie ou une métaphore des réseaux sociaux parce qu'on a l'intimité du foyer et on laisse entrer les gens à l'intérieur. C'est un peu ce que fait Instagram, ce que fait Twitter, etc. C'est-à-dire qu'on montre des photos, on montre son intimité, on dit plein de choses et on laisse entrer les gens et après, on se laisse submerger par ça. Il y a l'image de l'enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que les gens ont un enfant sur les réseaux, ils le montrent en photo. C'est-à-dire qu'ils l'offrent aux gens comme ça, ils l'offrent au peuple. Et en fait, il y a plein de petits parallèles comme ça entre l'intimité et les réseaux sociaux et le film. Et bien après, j'ai vu qu'il y avait plusieurs interprétations, et t'en as aussi, j'imagine, Xavier, mais celle qui collait le plus, et celle que Aronofsky a un peu donnée, c'est la destruction de la nature. Jennifer Lawrence serait la planète, Javier Bardem serait l'homme, et en gros, on laisse de côté la nature comme ça, on la salit, on la détruit, jusqu'à ce que ça explose à la fin, quoi. Quelle était ton interprétation, toi, Xavier ?
Oui, enfin pour moi, c'était la maison, la terre, et elle était la mère nature plutôt. La mère nature et lui le dieu. Et donc effectivement, au début, je me disais bon, c'est très étrange ce couple dans cette maison. Je me dis tiens, on est presque dans du Strindberg, hein, qui est un auteur de théâtre suédois où il y a toujours des couples comme ça. C'est la guerre des sexes. On sent qu'il y a un vrai problème. Et puis il y a ces deux autres personnages qui arrivent, qu'on pourrait interpréter comme Adam et Ève. Hein. Mais à l'époque, je me dis, tiens, maintenant, on va être dans du Claudel, l'échange de Claudel, où c'est l'histoire de deux couples. Et puis après, oui, on est dans le point de vue de Jennifer Lawrence et la façon dont elle est finalement défigurée. Elle qui essaye de réparer, de rénover, de redonner naissance, et qu'au fur et à mesure, la maison va se peupler et va venir tout détruire. Je n'avais pas conscientisé que c'était ça, les mots, nature, terre, Dieu, mais j'avais complètement senti que c'était de la violence de l'humanité, de même de la civilisation, de l'aveuglement de la civilisation, de la barbarie. Et quand elle, vraiment à la fin, quand elle criait, je n'étais pas dans son état, mais j'ai eu vraiment un... Bon, je suis un bon spectateur en général, hein, mais j'ai vraiment pleuré à chaudes larmes, quoi. J'étais viscéralement défiguré comme elle.
Bah justement, tu parlais de Adam et Ève juste avant, il y a aussi une interprétation autour de la religion pour ce film, où Javier Bardem serait Dieu, Adam et Ève, les persos de Michel Pfeiffer et Ed Harris, Abel et Caïn sont les fils.
Les deux fils qui s'entretuent.
Qui s'entretuent. Donc il y avait tout un parallèle comme ça. Il y avait tout un truc aussi sur le. Les gens disaient que c'était une métaphore des maris narcissiques et pervers. Il y avait tout un truc comme ça. Donc en fait, finalement, on a. Bon, moi, c'était les réseaux sociaux, mais il y a la nature, il y a la religion, il y a plein de trucs. Et c'est ça qui est fort avec ce film, c'est qu'il nous met en tension. Mais aussi, on en fait ce qu'on veut au niveau d'interprétation. Donc ça, c'est incroyable.
On en fait ce qu'on veut, mais en même temps, il y a comme une sorte de schéma, parce que vraiment, si on approfondit, je pense que vraiment la théorie de la terre, la nature, et de Dieu, et de Adam et Ève, et Abel et Caïn, la dramaturgie, elle est presque même piquée, j'ai envie de dire. Mais en même temps, c'est des schémas qui s'appliquent justement aussi à la masculinité toxique, à plein d'autres interprétations, et notamment ce que tu évoques sur les réseaux sociaux aussi, comment par exemple on est envahi par l'intimité, le peuple entre dans notre intimité ou on le laisse entrer dans notre intimité.
Exactement, et d'ailleurs pour alors j'avais noté plein de trucs comme ça pour essayer d'expliquer mon idée de l'allégorie, de la métaphore des réseaux sociaux. À un moment donné, on voit un passage dans le film où les gens entrent, donc limite par effraction chez elles, et repeignent les murs.
Oui.
Et c'est un peu aussi les réseaux, parce que quand on laisse entrer les gens, comme ça, ils vous disent quoi faire dans les commentaires. Tu devrais faire ci, tu devrais t'habiller comme ça, tu devrais faire comme ci, comme ça. Et donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Alors, je pense pas que c'était ça, mais je sais pas, j'ai vu un truc avec les réseaux sociaux, c'est assez drôle. Est-ce que toi, Xavier, il y a une scène qui t'a marqué plus qu'une autre dans le film ?
Oh oui, je crois que c'est... il y en a eu plusieurs, mais notamment quand ça commence... Enfin, quand il y a le GIGN qui arrive et que...
ouais.
Voilà, si je me souviens vraiment, les premières larmes qui sont venues, c'est quand elle demande à des invités qui s'acharnent à vouloir s'asseoir sur le plan de travail parce que l'évier n'est pas fixé, ouais. Et qu'elle leur demande poliment plusieurs fois et elle se retourne, elle est emmerdée par un mec et derrière, ils font direct, ils se rasseillent dessus et puis limite, ils provoquent pour vouloir justement casser l'évier et là... Effectivement, c'est, concrètement, on peut se dire que c'est débile, mais symboliquement, c'est tellement vrai. Mmh. Et effectivement, tu parlais des gens qui repeignent les murs, mais quand on voit que tout le monde pratiquement s'entretue, saccage, il y a quand même des gens, donc des hommes, des humains qui essayent. Bon, ça fait passer à l'écologie. Il y a des écologistes qui sont plus éveillés, qui essayent de réparer, d'entretenir la terre pendant que d'autres la massacrent. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que si effectivement on prend le film au premier degré, on n'y comprend rien. Enfin, on se dit c'est n'importe quoi. Et effectivement, quand on voit qu'il y a une sorte de chaos dans la maison, et puis qu'on voit deux personnages en train de repeindre des murs derrière avec leurs rouleaux, on se dit mais on est où ? C'est sûr qu'il faut pas avoir de premier degré pour le voir.
Complètement, et puis pour donner une indication comme ça en plus, Aronofsky avait donné une interview dans laquelle il avait dit que ce film venait d'un cauchemar. Il avait fait un cauchemar comme ça, et puis il a écrit un premier draft en 5 jours. Et en gros, ce cauchemar, c'était tout ce qui se passe sur Terre. Donc la nature qui est malmenée, les attentats, tout ça. En fait, tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de salir, et c'est de là qu'il a eu l'idée du film. Joanne, il y a une scène qui t'a marqué, toi, en particulier ?
Alors, moi, j'y étais allé vierge de tout commentaire. J'avais pas lu le pitch. J'avais juste un peu vaguement vu la bande-annonce. Et moi, c'était le plaisir de retrouver certains acteurs aussi dans ce film-là qui m'y avaient amené. Et donc, j'avais vu, moi, de façon très premier degré, au début, en tout cas. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est quand ça commence à basculer, qu'on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de regarder ?
Ouais.
Et moi, je m'attendais à un simple film de Home Invasion. Je m'attendais à retrouver vraiment une histoire très didactique sur un mari un peu violent ou sur cet effet de pavard narcissique, etc. Puis en fait, pas du tout. Et en fait, tout ça, ça m'a embarqué. Et le fait d'être bousculé, de ne pas comprendre ce qui se passe, ça m'avait beaucoup plu.
Mais d'ailleurs, tu fais bien de parler des acteurs, parce que là, en revoyant le film hier, j'ai été marqué. Alors forcément, Javier Bardem et Harris jouent très bien, mais j'ai été marqué par la performance de Jennifer Lawrence et surtout de Michelle Pfeiffer.
Ouais.
Michelle Pfeiffer qui est incroyable dans le film, quoi.
Elle est flippante.
Elle est vraiment flippante. Toi, Aurélien, il y a une scène qui t'a marqué plus qu'une autre ?
Bon, il y a, enfin, c'est plusieurs petites scènes, mais il y en a deux. Il y a donc, comme Xavier, celle quand ça part vraiment en rêve parti et tout, qu'on comprend plus rien, que ça déborde et que tu sens vraiment, bah, qu'après ça part vraiment, je sais pas, l'espèce de fanatisme qui en ressort complet, où tu vois que tout le monde devient fou et qu'il n'y a plus possibilité de contrôler quoi que ce soit. J'ai vraiment eu de l'angoisse en moi, en fait. Je me suis dit, ça y est, c'est le monde qui est en train de basculer. Et genre, tu vois ce truc quand les gens ils sont complètement en train de essayer de te faire croire à quelque chose et qu'ils sont fanatisés par ça et que toi t'es pas là et que tu veux pas être dans ce truc là et qu'en fait ils t'embarquent là-dedans par défaut, quoi. Donc il y a ça, et sinon toutes les scènes où c'est très dans le fantastique de comment la maison vit. Et au début je pensais que ça allait partir en mode poltergeist, tu vois, quand Jennifer Lawrence, elle sent le cœur de la maison, quand il y a les traces de sang qui arrivent dans une pièce un peu spéciale et tout, et tout ce truc de la maison un peu vivante. Je trouve que même en termes de organique, visuellement, c'était assez intéressant comment la maison saignait, en fait. Ouais. Quand elle trouve les plaies à l'intérieur du parquet, et qu'en fait, ça y est, je suis assez sensible quand je vois finalement le mobilier ou la maison qui se met à vivre, en fait. Je trouve ça hyper intéressant comment c'est modélisé.
Moi, en le revoyant, il y a deux scènes qui m'ont marqué. La première, c'est celle où Jennifer Lawrence, pour la première fois, craque et gueule en disant « dégagez de chez moi », en fait. Parce que ça, c'est, on attend ça, en fait, pendant tout le film. Ouais. Pendant tout le film, nous, on est à la place de Jennifer Lawrence, on a qu'une envie, c'est de dire « mais cassez-vous de chez moi, en fait ». Et à un moment donné, ça, elle en peut plus, ça monte, et elle le dit, elle gueule, elle dit « cassez-vous de chez moi ». Et Dieu sait qu'elle est hyper conciliante dans le film, pendant une bonne partie du début. Et la deuxième scène qui m'a vraiment marqué, c'est celle, et je me souviens que ça m'avait marqué aussi au ciné, c'est quand ils demandent au couple de... Enfin, quand Pfeiffer et Harris, parce qu'ils ont pas, y a pas de nom dans le film, les personnages n'ont pas de nom. Casse l'espèce de petit diamant comme ça, le cœur. Donc là, on leur dit de partir. Elle va aller voir dans la chambre et ils sont en train de copuler juste après. Ouais. Et là, on ressent une gêne et un truc de mais qu'est-ce qui se passe au sein de mon foyer, quoi, c'est un cauchemar, quoi. Et ça, c'est très bien représenté, je trouve. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les deux scènes qui m'ont. Mais il y en a beaucoup dans ce film, il y a beaucoup de scènes qui marquent, quoi.
Oui, cette scène où elle vient d'accoucher et que lui s'assoit, installe le fauteuil et attend. Il veut prendre le bébé dans les mains, dans les bras, et elle refuse et il attend qu'elle
s'endorme.
Trois secondes d'assoupissement et elle se réveille en sursaut.
Et d'ailleurs, il le joue très bien, Verdem, parce qu'il est très inquiétant à ce moment-là, son regard.
Ouais, ouais, ouais.
Alors Aurélien, ce film a donc été écrit et réalisé par Darren Aronofsky, réalisateur dont on connaît le nom et les œuvres, mais un peu moins le parcours.
Tout à fait, donc j'ai fait quelques petites recherches parce que moi aussi je connaissais comme vous un peu son profil qui va de Pire, Requiem for a Dream jusqu'à The Wrestler et The Whale plus récemment, et donc passant par Mother. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films qui se ressemblent mais en même temps avec des changements soit scénaristiques, soit même de réalisation et de fond. Parce qu'il y a des fois où c'est très dans l'allégorie et dans la symbolique, et des fois très même religieux, dans certains de ses films, notamment dans Mother. D'autres fois où c'est beaucoup plus didactique et plus ouvert à un plus large public, j'ai envie de dire. Donc pour revenir un petit peu sur son parcours, le mec est né en 1969, il a vécu à Brooklyn, New York. Dans sa jeunesse, ses deux parents étaient professeurs, enfin sont peut-être encore professeurs, je n'ai pas vérifié. Et il a grandi dans un environnement religieux, mais pas tant que ça en fait, parce que je me demandais si, d'où pouvait venir un peu toute cette appétence pour la Bible qui vient quand même régulièrement dans ses films. Lui, il va l'expliquer différemment, c'est qu'il va en fait très tôt s'intéresser à la biologie et à la nature. Donc là, on comprend mieux Mother. Et en fait, il va être biologiste sur le terrain pendant très longtemps, au début de ses études. Même dans les années 80, il va partir faire un grand voyage au Kenya et s'intéresser à la nature au Kenya, puis en Alaska. Et il se voit comme un homme de terrain qui va vraiment faire des grandes études de biologiste et s'intéresser à la nature, à la faune, à la flore. Et il est parti là-dedans et il arrive à Harvard. Il va faire un double cursus d'anthropologue et de cinéaste, en fait. Et c'est vraiment à la fin de ses études, vu qu'en même temps, il va être très fan de théâtre, de Broadway avec ses parents et tout. C'est à ce moment-là qu'il va finalement basculer côté cinéaste. Mais finalement, il était très scientifique, à la base. C'est ça qui ressort un petit peu dans la création de ces films maintenant quand on y pense, je trouve, c'est qu'il y a un rapport à justement la spiritualité, la philosophie et aussi la nature et la science, en fait, qui est assez important. Ça, après, très vite, il devient un peu une sorte de génie à Harvard, quand il sort pour son film d'études, son premier court-métrage marque beaucoup les gens en 91, donc tout début des années 90. Et après, il va faire des choses qui sont pas vraiment, qui sont un peu en avance dans le temps. C'est que pour son premier film, qui sera donc Pi, qui sortira en 97, il va faire du crowdfunding, en fait. Il va demander à tous ses amis et les gens de sa famille de donner $100. Et il dit, si le film marche, je vous rembourse 150. S'il marche pas, vous aurez le nom dans le crédit. Et en fait, c'est complètement comment marche maintenant le Kiss Kiss Bank Bank, tu vois. Il arrive à avoir 60 000 $.
Ouais, quand même.
Et avec 60 000 $, il arrive à monter son premier film, qui va être Pi, qui va être... qui va présenter à Sundance, qui va cartonner, qui va être d'ailleurs le premier film à être disponible en téléchargement sur Internet, en 97. Okay. Donc pareil, il est très dans la technologie et dans un peu la nouvelle façon de consommer le cinéma. Et ça va être acheté par un producteur pour $1 million, et il va y avoir $3 millions de recettes avec ce premier film qui n'en coûtait que 60 000. Donc c'est un succès total, et là ça y est, pouf, Darren Aronofsky, on considère que dans les années 90, c'est la nouvelle star possible du cinéma indépendant, comme on en parle souvent, du cinéma un peu Sundance, qui était encore dans des grands temps de noblesse. Et derrière, il fait un projet qu'à mon avis vous connaissez tous, qui est Requiem for a Dream, qui sort donc en 2000. Vu qu'il a beaucoup de gens qui le suivent à ce moment-là, il arrive à avoir un budget assez conséquent qui lui permet d'avoir des acteurs beaucoup plus connus que sur son premier, notamment Jared Leto, Jennifer Connelly. C'est là que ça va basculer, parce que c'est encore un film qui va cartonner, notamment dans son propos. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va dire qu'il utilisait aussi les contraintes de sa façon de filmer. C'est-à-dire qu'à l'époque, vu qu'il n'avait pas forcément des énormes budgets, là je crois que le budget était au niveau de $3 millions, je crois. Il a réussi à en faire $7 millions de recettes avec. Mais il disait qu'à l'époque, en fait, il avait l'habitude d'avoir des contraintes de réalisation qui étaient de faire des plans très courts. Parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent pour faire de la pellicule, en fait.
Toi, Requiem for a Dream, ça t'avait marqué comme film, Xavier ?
Oui, bien sûr. Ah oui. La musique,
Exactement.
Les plans, puis l'addiction, c'est quand même... c'était effroyable à voir comment ça pouvait... Voilà, plein de portes d'entrée, détruire l'humanité aussi.
Là où ce film était super aussi, c'est que... Moi, je me souviens que je l'ai vu ado, Requiem for a Dream, et c'est un film qui... te calme sur l'envie de prendre de la drogue.
Ah bah oui.
Aussi pour ça, quoi.
C'est même pas que sur... Là, tu parlais des réseaux sociaux, mais en fait, il y a aussi tout un délire sur l'addiction en général, parce que c'est vrai qu'il était souvent rapproché à des films vraiment sur la drogue dure, genre Trainspotting et tout, mais il y a aussi un gros truc sur l'addiction aux médicaments, l'addiction tout court, à la cigarette, au jeu, à l'alcool, finalement, à l'addiction dans toutes ses formes, tu vois, donc c'était très fort. Mais ouais, ce que je disais, c'est que je trouvais intéressant le fait qu'il disait que c'était une contrainte, en fait, pour lui, de faire des plans très courts, et en fait, c'est ce qu'on va retenir de sa réalisation au départ, d'avoir des plans un peu ce qu'ils appelaient le hip-hop edit montage, en fait, des plans de clips où c'était hyper découpé, avec beaucoup de... un peu presque épileptique, mais en fait, c'était une contrainte à la base, donc c'est assez intéressant, je trouve. Et après va arriver son premier film, un peu, on va dire, qui va être sa marque de fabrique, c'est The Fountain, qui va être son plus gros budget, et on va dire que c'est un peu la marque de fabrique de Darren Aronofsky de faire son film le moins compréhensible avec celui qui a le plus de budget, c'est-à-dire c'est là qu'il commence à rentrer son aspect un peu plus fable, métaphore de la vie, de la religion, qui devait normalement se monter avec Cate Blanchett et Brad Pitt, qui se retrouve finalement avec Hugh Jackman, qui va être un film un peu comme Mother, controversé, que les gens au premier degré vont pas comprendre. Je sais pas si vous, comment vous l'aviez reçu à l'époque.
Figure-toi que c'est le seul de Aronofsky que j'ai pas vu, The Fountain.
Ouais.
Moi non plus, je l'ai pas vu.
Ok, moi je l'ai vu il y a longtemps, j'avoue, mais je sais que c'était vraiment déjà un peu tout ce rapport à la religion qu'il avait, où il y avait... à la création, en fait, qui était assez fou, et donc la fontaine de la vie, quoi. Bref, on va pas rentrer dans ce sujet, mais finalement, si on doit mettre un grand arc de quand est-ce que Darren Aronofsky devient un réalisateur qui compte et qui fait des grosses recettes et qui rentre dans le moule de Hollywood, c'est avec The Wrestler en 2008, avec Mickey Rourke, La Renaissance de Mickey Rourke. On a déjà parlé de ce film dans le podcast.
Oui, là, il est moins dans la métaphore, il est plus dans le concret. Quoi.
Complet. Et en fait, on se rend compte qu'entre tous ces films, il a eu beaucoup de projets, notamment de, moi, ce que j'ai appris, de faire le Batman. Il devait normalement... il avait un projet Batman avec Frank Miller, qui était avant les projets avec Nolan. Il avait casté Christian Bale pour être Batman. Donc, quasi, ça aurait pu être lui, Batman. Les Batman de Nolan, finalement.
Mais pareil, c'était aussi, il était rattaché au... au projet Robocop pendant longtemps. C'est lui qui devait faire le Robocop. Ça, ça m'excitait vraiment beaucoup à l'époque.
Complètement. Il y a aussi The Fighter qui finalement... où il avait casté Christian Bale, où il était vachement sur l'écriture, etc. Mais il trouvait que c'était un projet qui ressemblait trop à The Wrestler, donc il ne l'a pas fait. Mais finalement, dans ces années 2000, il y a eu énormément de films où il était dans le projet. Et finalement, c'est avec The Wrestler, puis juste après, Black Swan, où il va devenir le réalisateur plus important et imposant dans le monde d'Hollywood que l'on connaît.
Très bien.
Pour faire son parcours.
Xavier, est-ce que Aronofsky entre au panthéon de tes réalisateurs que tu admires ?
Oui, je trouve qu'en tout cas, dans le paysage cinématographique, j'ai envie de dire même mondial, hein, il a quand même, il apporte une poésie, en fait. C'est l'aspect poétique, mais pas dans le sens mièvre du terme, mais dans le sens symbolique du terme, est extrêmement, c'est-à-dire l'alliance entre le sens et l'image et comment tout est narratif et tout est symbolique et rien n'est qu'un seul sens, il est hyper important.
Et puis c'est toujours un événement, c'est-à-dire que Aronofsky peut faire n'importe quel film, il y aura toujours un public pour aller le voir, il peut tu te dis, il va faire une comédie romantique, tu as envie de voir pour voir de quelle manière il va tordre l'esprit de la comédie romantique. C'est pour ça que moi, tu l'évoquais à la fois toi Nemo avec Batman, qui d'ailleurs, pour avoir lu un peu les premiers traitements, il voulait faire de Batman un garagiste. Bon, il faut le savoir.
Ah ouais.
Oui, okay. Ce qui était assez différent du Batman qu'on connaît. Et la vision qu'il aurait eue sur Robocop, moi, ça m'emballait et je l'attendais.
Pareil. Donc, Alors aujourd'hui, nous avons donc avec nous un autre réalisateur, Xavier Legrand, au parcours lui aussi singulier, car tu as commencé par l'acting. C'est ce que j'ai appris en 2005 dans Les Amants réguliers de Philippe Garrel. Comment ça a commencé pour toi, vraiment, quand on pense au tout début comme ça à l'acting ?
Ça a commencé depuis très longtemps parce que j'ai en fait découvert le théâtre à l'école primaire et j'ai commencé vraiment à prendre des cours à 10 ans. Et donc depuis l'âge de 10 ans, je joue.
Donc ça, c'était ton rêve à la base ?
Oui, c'est... Bon, je ne vais pas tout raconter parce qu'on en a pour 3 heures, mais c'est vrai que on m'a un petit peu forcé à faire un spectacle de fin d'année dans l'école et on m'a donné le rôle principal. En plus, c'était dans un contexte particulier parce que c'était un spectacle sur le handicap pour des enfants handicapés. Et je jouais donc un rôle qui était en fauteuil roulant et je jouais devant des enfants qui étaient eux-mêmes en fauteuil roulant. Et ces enfants riaient parce que c'était une comédie. Et le fait de les faire rire, ça m'a... J'ai compris le sens de l'identification, de leur apporter du plaisir, de leur apporter un miroir. Et donc, très vite, ça a été vraiment ma décision et j'ai pris des cours et j'ai jamais arrêté.
Donc, en gros, tu commences par la comédie, t'enchaînes avec des petits rôles. Et puis, il y a un basculement au début des années 2010, puisque tu réalises ton premier court-métrage, Avant que de tout perdre. Alors déjà, comment ça s'opère tout ça ? Comment t'en arrives à réaliser ce court et là, comme ça, à basculer de la comédie à la réalisation ?
C'est l'écriture, et notamment l'écriture de théâtre. C'était une époque où je jouais beaucoup en tournée, des spectacles, où j'étais au TNP de Villeurbanne, donc il y a une troupe permanente, on jouait beaucoup de spectacles. Et donc du coup, on allait partout dans les villes en France, et au bout de 2 jours, on a fait le tour des villes, et puis on se retrouve à l'hôtel. Donc le soir, on joue, mais la journée, et j'ai commencé à vouloir écrire, mais j'avais des velléités vraiment... d'écrire pour le théâtre et le fait de le jouer, le théâtre, de le lire, de le travailler, je crois que j'avais une sorte peut-être de complexe d'infériorité par rapport aux auteurs que je jouais et surtout que je détectais quand même que mon écriture était cinématographique. Et donc du coup, en fait, je me suis amusé à essayer d'écrire un scénario de court-métrage.
Ça débute comme ça, quoi. S'amuser à écrire quelque chose.
Exactement. Okay. Mais alors, ça prend des années, hein, parce que bien évidemment, j'avais aucune velléité de me sentir et scénariste et réalisateur. Et c'est des rencontres, en fait.
Alors justement, j'allais y venir, c'était ma question suivante, parce que pour ce premier court-métrage, donc on est en 2011,
c'est ça.
T'arrives quand même à avoir pour un premier court-métrage, alors que t'as pas vraiment de background avant, Léa Drucker et Denis Ménochet.
Ouais.
Denis Ménochet qui venait de tourner dans Inglourious Basterds. Comment tu fais pour choper comme ça deux acteurs aussi importants pour un premier court-métrage ?
J'en suis encore moi-même étonné. Je sais que c'est grâce à mon producteur, Alexandre Gavras, qui lui-même n'était pas producteur à l'époque. En fait, lui, il était réalisateur. On s'était rencontrés d'ailleurs sur un projet de théâtre. J'étais assistant à la mise en scène au théâtre. lui réaliser la captation. Alors, c'est pas une captation du spectacle, c'était vraiment un tournage du spectacle. Hein. C'était pas une captation en public. C'était vraiment une quinzaine de jours où on reproduisait le spectacle en film, en fait. Et j'avais mon court-métrage qui était prêt. Et je lui ai fait lire juste pour avoir son avis. Et lui, en fait, voulait passer à la production. Et c'est lui qui m'a dit, mais il faut que tu essayes de le réaliser toi-même, vu comment tu m'en parles. Tu penses à qui ? Je dis, moi, pour le rôle de Myriam, je voudrais une actrice comme Léa Drucker, mais à aucun moment j'imaginais qu'on allait lui proposer, que j'allais même travailler avec elle. Ouais. Je me disais, je vais avoir des copines de théâtre qui vont peut-être pouvoir jouer. Il m'a dit, mais non, il faut peut-être lui proposer. Et donc, on est allé la voir au théâtre, on lui a proposé, elle a lu, elle a adoré, elle a voulu m'accompagner. Et donc,
se passe comme dans un rêve pour l'instant, parce qu'en plus, la suite est encore plus folle, mais pour l'instant là ça débute comme dans un...
Oui, il y a une sorte de fluidité comme ça, et en même temps se dire bon, c'est qu'un court-métrage, c'est son premier essai au producteur, c'est le mien aussi, et en même temps Léa était paraissait un peu trop pro pour moi, qui n'ai jamais tenu une caméra, mais en même temps c'était pas une star non plus.
Oui, non, mais c'est ça, c'est rare des acteurs aussi confirmés qui font confiance à un réalisateur qui a encore rien fait.
Oui, exactement, mais c'est ça qui était fou. Mais je pense que elle a, avant de me dire oui, elle a lu, elle a aimé, elle a accepté de me rencontrer. C'est à l'issue de la rencontre où elle a compris aussi quel film je voulais faire. Et en même temps, c'était quelqu'un de tellement... C'est quelqu'un, toujours d'ailleurs, de tellement simple, accessible, qui veut travailler pour les projets et pas pour autre chose, qu'en fait, entre Alexandre qui débutait, moi aussi, et elle qui se présentait comme une débutante aussi, sans aucune prétention de son nom et de sa carrière, ça découlait, que c'était très simple, en fait.
Alors, la suite, elle est folle, parce que le court-métrage reçoit le César du meilleur court-métrage, mais en plus, est nommé aux Oscars.
Oui.
Ça, c'est incroyable, il faut que tu nous racontes comment ça s'est passé. Je veux tout savoir, Los Angeles, les Oscars, la cérémonie, comment t'as vécu tout ça ?
C'était un peu irréel. Je me souviens d'avoir... Je jouais une pièce de Tchekhov à l'époque. Ça allait être la première. Et on était en répétition, on allait faire un filage. Et je reçois le coup de fil d'Alexandre Gavras qui me dit « On est nommé aux Oscars ».
Incroyable.
Mais vraiment. Et j'ai dit « Ah bon ? Ok, je te rappelle. » Hop, et puis le filage commençait. Donc je répétais mon rôle en me disant « Mais je suis nommé aux Oscars, ça n'a pas de sens. » Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et effectivement, après, on est allé sur le tapis rouge des Oscars. Et en fait, moi, j'avais un peu l'impression d'être au manège, quoi. Plutôt que de... Je pense qu'il y avait sans doute une conscience chez moi de ne pas vouloir complètement prendre conscience de ce qui se passait et de me dire, c'est juste irréel.
Parce qu'une fois là-bas, quand tu es sur le tapis, tu dis, mais qu'est-ce que je fais là ?
Qu'est-ce que je fais là ?
J'étais à Villeurbanne il y a quelques mois, et puis là...
Exactement, puis on s'arrête sur le tapis rouge, on est interrogé par des journalistes, et juste à côté, il y a Julia Roberts ou Meryl Streep qui répond aussi à une interview sur le tapis rouge. Incroyable. Ça n'a pas de sens.
Trop bien. ce court-métrage, donc Avant que de tout perdre, devient un film ensuite, qui s'intitule Jusqu'à la garde. Et là encore, la success story se poursuit parce que ce film obtient le César du meilleur film. Alors, juste une question avant, t'as mis 5 ans entre le court-métrage et le long-métrage. Pourquoi autant de temps ?
Déjà parce que je jouais encore beaucoup au théâtre, en fait, parce que aussi j'avais changé mon fusil d'épaule, si je pouvais faire ce mauvais jeu de mots avec le film. Et à l'époque, en fait, je voulais faire 3 courts-métrages quand j'ai écrit le premier. Je voulais faire une trilogie. Et en fait, je me suis aperçu vite que le deuxième et troisième volet n'allaient plus avoir vraiment de sens par rapport à la façon dont je voulais raconter les choses. Donc j'ai tout déstructuré, restructuré le scénario, refait de l'immersion, j'ai fait beaucoup de terrain. Donc ça m'a pris du temps, en fait, pour écrire ce scénario, puis aussi parce que je voulais un peu prendre le temps, parce que passer du court au long, c'est pas du tout les mêmes budgets, les mêmes contraintes, les mêmes responsabilités. Ouais.
Alors, j'avais une question pour toi, parce que je vais pitcher rapidement Jusqu'à la garde. Jusqu'à la garde, c'est un film qui raconte un divorce difficile, mais surtout la garde d'un enfant, le papa, sans spoiler, on se doute que le père est inquiétant, la mère souhaite garder l'enfant, j'en dis pas plus, mais ça commence comme ça, jusqu'à la garde. Léa Drucker est formidable dans le film, Denis Ménochet est terrifiant. Denis Ménochet, il a quand même un truc, parce que moi je me souviens, on parlait d'Inglourious Basterds juste avant, dans l'intro, c'est une des prestations qui m'a le plus marqué, Denis Ménochet dans Inglourious Basterds. Comment toi tu l'as coaché, enfin est-ce que César, ça se coach Denis Ménochet, je sais pas, mais il est tellement incroyable dans le film. Toi, tu lui donnais des indications. Comment ça se passait le travail avec lui?
Bah, déjà, il y avait tout un processus qui était d'assumer un rôle comme ça, en fait. Parce que c'est pas évident d'assumer pour un acteur, un homme, d'accepter de prêter son corps, sa voix, ses yeux.
Un homme dégueulasse, quoi.
Un homme, oui, un homme qui, un homme malade. On peut dire que c'est oui, quelqu'un qui ne s'est pas aimé. Et qui est dans, comment dire, la possession, voilà, il possède les femmes et les enfants. Et donc il pense à ses droits et pas à ses devoirs. Bon, et en fait il a fallu déjà, on a beaucoup discuté parce que Denis avait beaucoup de questions et Denis aussi avait besoin de rentrer dans le concret du dialogue, la situation, même en improvisant un petit peu pour un peu comprendre comment on rentrait dans la scène. Et c'est surtout, en fait, je lui ai dit un truc qui, je crois, a été vraiment essentiel, c'est il suffit juste que tu joues la victime, en fait. Parce que pour lui, il est victime. Il est victime de la justice, il est victime de fausses accusations, il est victime du désamour de cette femme, il est victime de sa manipulation. Donc il fallait qu'il se sente victime du début à la fin. Et ça, ça a été un déclencheur assez important.
Jusqu'à la garde fait un triomphe à la Mostra de Venise, au César, meilleur film, d'autres Césars également. Comment t'accueilles ça? Alors il y a les Oscars avec Le Cours, maintenant après il y a tous ces prix avec le film. Comment toi, jeune réalisateur, pour un premier film, tu gères ça émotionnellement?
Je gère ça parce qu'en fait, je me raccroche vraiment à l'utilité du film. C'est-à-dire que tout au début, quand on, avant le tournage, on parle avec le distributeur et c'est normal. C'est quand même, alors déjà, on discutait le titre est pas sexy, c'est quand même, voilà, le sujet est dur, est-ce que les gens vont avoir envie de voir ça? Donc moi, je suis vraiment allé jusqu'à la fin du processus du film avec, donc je vais présenter un film que les gens vont pas avoir envie de voir parce que je les invite à voir ce qu'on ne veut pas voir. Et en même temps, voilà, il y a eu une sorte de succès, et c'était avant MeToo. On était quand même à une époque où on ne voulait pas trop en parler, on n'en parlait pas en tout cas. Les violences faites aux femmes, c'est une expression qui n'était pas dans la bouche de tout le monde. Donc ça restait assez inédit. Et en même temps, parallèlement, et c'est aussi avec le formidable travail de Haut et Court, c'est qu'ils ont aussi présenté le film au sein des associations pour que le bouche à oreille se fasse. Et c'est là où j'ai mesuré, que j'avais déjà mesuré avec le court-métrage, mais l'utilité. L'utilité vraiment que ce film pouvait avoir, surtout aux rencontres à la fin avec le bouche, enfin le, comment dire, ouais, notamment le bouche à oreille, les gens qui sont venus et qui mettent des mots en fait sur ce qu'ils ont vécu, parce que beaucoup, finalement beaucoup de gens ont vécu ce qui est décrit dans le film, quoi. Et aujourd'hui maintenant c'est devenu même un outil pédagogique pour l'École nationale de la magistrature, donc c'est-à-dire qu'ils regardent le film pendant leur cursus. Donc je me suis accroché à ça aussi pour relativiser avec les paillettes, avec les prix qui s'accumulent, pour essayer de dire ouais, donc c'est super parce qu'on me reconnaît, on a envie de mettre un coup de projecteur sur mon travail, mais c'est aussi un coup de projecteur sur un sujet et qu'il faut avoir la responsabilité de porter jusqu'au bout. Donc c'est ça qui m'a tenu les pieds sur terre, je crois.
Moi j'ai vu ce film, je l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu dans mon salon et je me souviens que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas été aussi pris par un film, c'est-à-dire que plus rien n'existait autour, mon téléphone portable n'existait plus, et tu sais que parfois il peut être tentant pendant un film, et là plus rien n'existait, et ça faisait 30 ans que je n'avais pas eu ce truc où je touche un peu mon canapé comme ça en mode « waouh, qu'est-ce qui se passe quoi ?» J'étais vraiment pris, ça c'est incroyable, et ça j'aimerais y revenir quand même plus tard, parce que je trouve que y a une vraie patte dans ton cinéma, c'est celle de faire monter la tension avec brio. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti dans tes deux films, on va en parler après, mais cette façon de faire monter la tension, c'est assez extraordinaire. Tout va bien sur Disney, tu as travaillé sur ce projet par la suite.
Oui.
Et maintenant, ton deuxième film qui se nomme Le Successeur, qui est sorti hier. Je t'en parlais en off tout à l'heure, petite pression, un deuxième film forcément.
Oui, ah bah forcément, oui, c'est comme une règle à laquelle on ne peut pas déroger. Oui, il y a une pression, bien sûr, parce qu'on est attendu, parce que forcément, maintenant, les gens vont vous regarder avec déjà une histoire. Déjà une histoire derrière. Donc forcément, on est sujet de toute façon à une certaine déception. C'est-à-dire que si on fait la même chose, on est un peu feignant. Si on fait littéralement différent, on est décontenancé. Il y a même des gens qui m'ont dit « Mais pourquoi faire ce film après Jusqu'à la garde ?» J'ai envie de dire « Mais c'est quoi la recette ? Dis-moi quel film faut-il faire ?» Donc oui, la pression était là et j'ai attendu qu'elle s'éteigne un peu pour pouvoir le faire. C'est pour ça que j'ai mis aussi beaucoup de temps. C'est pas que pour ça, mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre le temps de le faire, quoi.
Alors avec Aurélien et Johan, on a eu la chance de voir le film en avant-première au Max Linder il y a quelques jours. Personnellement, j'ai adoré le film. Vraiment, bravo, merci. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et pour vous dire, on est allé manger au restaurant après avec Johan et Aurélien. On s'est retrouvés devant le ciné, parce que ma moto était garée là-bas, et on a discuté du film comme ça, pendant plusieurs minutes. Mmh. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, puis ce moment-là, etc. Et en fait, je pense que c'est réussi à partir du moment où t'as des gens qui ont envie d'en parler après. Et moi, c'est un film qui est resté avec moi. Alors, je vais vous raconter le pitch, et je vais faire vraiment très attention avec le pitch, parce que j'ai pas envie d'en dire trop, mais globalement, c'est l'histoire d'un jeune styliste en vogue, qui travaille pour une grande maison, en tout cas, on imagine que c'est une grande maison, et qui devient... le créateur star, on le sent, d'ailleurs il s'apprête à faire la couverture de Harper Bazaar, tout va très très bien pour lui, et puis un jour il reçoit un appel, son père vient de mourir, père avec qui il est en froid depuis une vingtaine d'années si je ne dis pas de bêtises, et il doit se rendre à Montréal pour régler la succession, j'en dirais pas plus. J'ai vraiment adoré le film, encore une fois cette tension qui monte, on la ressent aussi, et comme je l'ai dit juste avant, c'est un film... qui est resté avec moi là pendant plusieurs jours. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, les mecs?
Quelques moments choc. C'est compliqué de parler de ce film.
J'aimerais qu'on ne spoil pas.
C'est ça, oui, hein. C'est que c'est très compliqué. non, mais j'ai rien spoilé. Hein. Attention.
Compliqué.
C'est compliqué d'en parler sans ne rien divulguer et sans gâcher les différentes surprises qui nous sont offertes. Plusieurs choses, moi, ce que j'ai aimé, c'est le travail autour du temps qui passe. C'est que j'ai beaucoup aimé les quelques ellipses que l'on voit pendant le film, et j'ai trouvé ça hyper bien rendu.
Oui, au niveau de la mise en scène, c'est très
fort. De la mise en scène, très fort. Les acteurs, alors Marc-André Grondin, ça m'a fait plaisir, qui est un acteur chauve, qui a un premier rôle, et ça, pour le coup, ça, moi, pour le moi, ça me touche.
Personnellement ?
Personnellement, ça me touche.
Oui, ce qui te représente.
Voilà, bon, ça fait plaisir. Et puis, pour rester aussi sur le domaine de la mode et de la création, j'ai trouvé ça bien d'avoir une reproduction assez fidèle de l'univers de la mode, des défilés.
Oui, ce que tu m'as dit après le film. Et quelque chose que j'ai marqué aussi pendant le film, c'est que t'as beaucoup ri, et c'était parce que il y a dans le film un humour cynique. C'est un humour très spécial où on peut ne pas du tout rire, mais parfois on rit tellement on est gêné.
Mais je ne dis rien.
Non, on dit rien, mais voilà. Mais il y a quand même un truc où on rit parce que on n'a pas d'autre choix que de rire parfois, tellement ouais. C'est ouais. Cynique. Ouais, c'est d'accord avec ça, toi, Xavier, ou pas ?
Oui, c'est même un rire de défense. On est décontenancé. Parce que le personnage se retrouve dans une situation qui est absolument inédite et absolument cauchemardesque. Donc nous, on rit par défense, par nervosité, par absurdité même. L'absurdité que la vie peut quelquefois produire.
Et Aurélien, il y a un petit moment aussi qui m'a beaucoup fait rire, c'est le moment où Aurélien a sursauté sur son siège.
Bah oui, moi, je suis très jumpscare.
Ouais. Oui, sans spoil, Aurélien.
Bah oui, il y a un petit jumpscare à un moment, donc je suis tombé dedans à fond. Et non, sans spoil, moi, c'est un peu cet aspect. C'est pas une scène en particulier où c'est vachement l'aspect de gouffre, un peu de fuite en avant, comme ça, de tomber dans quelque chose qui ne s'arrête jamais et on sait jamais quelle va être la fin, en fait, la fin de la chute. Comment réagir ? En fait, je me suis vachement identifié au personnage principal de. En fait. Je pense que c'est là où c'est très réussi, c'est comment moi j'aurais réagi si tout ça m'était arrivé en fait. Et est-ce qu'il y aurait eu des changements ? Est-ce qu'en fait on n'anticipe pas des fois qu'on va bien réagir sur certaines situations et mal sur d'autres et qu'en fait on ne sait pas. Enfin, que j'ai trouvé que c'était bien retranscrit dans le film ça, qu'on ne sait jamais en fait comment ça va vraiment se passer, les choses absurdes qui peuvent arriver et les gestes qu'on peut de l'extérieur trouver bizarre, et qui en fait de l'intérieur peuvent, quand on y repense, être totalement logique de réfléchir quoi.
Alors toute proportion
dans l'illogique quoi.
Toute proportion gardée, bien sûr. Moi j'ai un peu pensé à Hitchcock pendant le film. Est-ce que ça a été une inspiration ou les films d'Hitchcock?
Oui, ça c'est même pas, j'y ai même pas pensé. C'est-à-dire qu'il est en moi Hitchcock. J'ai été élevé à Hitchcock.
D'ailleurs, je dois dire que on propose toujours des films à l'invité. Donc il y avait Mother, t'as proposé Mother, mais t'as aussi proposé La Corde.
Oui. Oui, oui, c'est vrai, Hitchcock, c'est... j'ai même pas eu besoin de dire. Bon, de toute façon, on voit très clairement Vertigo, par exemple, ouais. Cette spirale qui est le premier plan du film, on y pense, mais voilà, il y a des escaliers qui peuvent penser à Psychose, il y a plein de choses. Il est dans mon cinéma, Hitchcock, mais sans même pas. Enfin, je fais même pas exprès de le citer, c'est comme ça.
En tout cas, le successeur est sorti hier, comme j'ai dit, c'est réalisé par Xavier Legrand avec entre autres Marc-André Grondin. Personnellement, j'ai adoré le film, je vous le conseille à fond. J'espère qu'on n'a pas trop spoil. Non, on n'a pas spoil, ça va.
Non, je pense pas. Je pense
non, ça, on n'a pas spoil. En tout cas, la fin. Vraiment, vous pouvez me faire confiance. Super film, le successeur. Alors, Johan, revenons-en à Mother. On est d'accord que le visionnage de ce film te met dans un mood et pas forcément dans un bon mood. Pas le genre de film à voir avec quelqu'un pour un premier date.
Effectivement, c'est vrai que donc je le disais, hein, Mother, moi je suis allé voir au cinéma avec une jeune femme que je venais de rencontrer. Elle avait craqué sur moi, évidemment, et donc
oui, bien sûr.
On avait échangé les numéros de téléphone et on s'était mis d'accord pour aller voir ce film quelques jours plus tard. Chez chose faite, un dimanche soir, figurez-vous, on était au Max Linder, on s'est installés tous les deux.
C'est
on a regardé ce film.
Linder, quand même, hein.
Comment
c'est ton ciné, le Max Linder.
J'habite à côté, forcément, ça me facilite les choses. Et on se retrouve pour aller voir ce film, on en sort. Et là où j'ambitionnais un rapprochement et une séduction entre elle et moi, je vous avoue que je suis sorti de ce film-là, j'ai eu qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Et puis de me poser, de réfléchir un peu à ce que je venais de voir. J'étais un peu sous le choc. Et c'est vrai que ça fait partie de ces films qu'on n'a pas forcément, enfin, en tout cas, que je ne préconise pas de voir lors d'un premier date. Mais. C'est pas le seul. C'est pour ça que je vous ai préparé un petit jeu. Je vous ai préparé une liste de films. Et puis vous me dites si, selon vous, c'est un film à voir ou pas lors d'un premier date.
Ok, parfait.
Est-ce que ça vous va ?
Très bien, parfait.
Bah, d'ailleurs, en attendant, est-ce que vous avez des idées de films à surtout pas voir lors d'un premier date ?
Alors moi, j'ai en tête des films comme ça que je n'ai pas envie de voir avec mes parents. Il y a des films comme ça qui sont toujours gênants à voir avec les parents parce qu'il y a des scènes de sexe. Ou...
Basic
Instinct. Souvent le film qui arrive. Mais avec un date.
La pianiste de Michael Haneke.
Oui, je pense que non, ça marche pas non plus. Mais même là récemment, The Zone of Interest, c'est pas un bon film pour
de
un premier
date.
Non.
Ouais. Alors, si je vous dis La Soupe aux Choux, est-ce qu'on voit pendant un premier date ou pas ?
Ah, bonne question. Parce qu'il y a quand même un...
Vous savez que tout d'un coup, j'essaie quand même d'élever les débats.
Hein, oui, bien sûr. Non, mais il y a un enchaînement
de flatulences.
De flatulences dans le film. Ouais. Voilà. Non, je pense que non.
Ça permet peut-être de mettre les choses à plat.
Mais bien sûr, ça permet d'être à l'aise dès le début.
Ça permet de savoir aussi si on a le même sens de l'humour.
Oui. Effectivement.
Xavier, ça se mate en premier date, ça, de La Soupe aux Choux, quoi ?
Moi, je pense que oui.
Ouais.
Ouais, et
allez,
grâce à Xavier, vous avez tous un premier point. Parce qu'effectivement, beaucoup réduisent ce film à un festival de flatulence. Mais c'est avant tout une magnifique histoire d'amitié entre Jean Carmet et Louis de Funès. Et aussi, effectivement, Jacques Villeray. Et puis, c'est une charge contre les désertifications rurales qui est toujours aussi actuelle. Donc, regardez-le avec votre crush et vous m'en direz des nouvelles. Titanic, est-ce qu'on le voit pendant un premier date ou pas ?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Xavier ?
Un peu long, il vient de s'endormir.
Ouais, c'est un peu glaçant à la fin.
Mais ah ouais ?
En fait,
comédie romantique quand même.
L'iceberg.
Grossière erreur de Jean-Baptiste.
Ah bon ?
Parce qu'effectivement, 3h30, c'est beaucoup trop long.
Ah mais oui.
Admettons que vous lancez le film à 21h. Il y aura forcément une petite pause au milieu pour aller boire un petit coca ou que sais-je. Donc il va se terminer aux alentours de 1h du matin. Et à cette heure-ci, vous préférerez faire un gros dodo.
Ah mais oui, mais je suis tombé dans le piège.
Deuxième erreur, il y a DiCaprio qui est au sommet de sa beauté, comme Kate Winslet. Donc même si vous êtes aussi séduisant que Nemo, vous ne faites pas le poids.
Damien a raison.
Grossière erreur.
C'est vrai, je suis tombé dans le piège.
Allez, troisième film. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Est-ce qu'on le voit lors d'un premier date ou pas ?
Non, je pense pas, non. Non.
Non. Ça permet de se projeter en même temps.
Nemo,
oui, par rapport à la belle famille.
Oui, la belle famille.
Les changements qu'il peut y avoir.
Alors, je pense que ça permet de bien tester s'il y aura de l'avenir ou pas.
Alors, c'est un peu relou parce qu'on va croire que c'est Xavier qui a écrit mon
premier. J'ai raison.
Parce que j'ai dit que oui, effectivement, c'est un film à voir parce que ça peut vous donner une idée sur votre belle famille. Donc, effectivement, c'est un film que je vous conseille lors d'un premier date. Ça vous permet de vous projeter dans l'avenir.
Et avec Xavier avait la réponse pour toi.
Allez, avant-dernier. Quand Harry rencontre Sally, premier date ou pas ?
Ah bah oui, quand même.
Ah oui.
Bien que... Attends, j'ai pas envie de tomber dans le piège, parce qu'il y en a où ça se termine mal, non ?
C'est pas le... Ah, faut pas mélanger tout ça avec Meg Ryan.
Non mais c'est considéré comme la plus grande comédie romantique de l'histoire. Très souvent, on pense à quand Harry rencontre Sally.
Bah, tu es décidément très mauvais.
Ah mince.
Puisqu'effectivement, c'est surtout pas un film à voir lors d'un premier date, puisqu'il faut quand même rappeler que Harry... et Sally mettent environ 15 ans pour se pécho dans le film.
Ouais,
donc si vous étiez pressé de séduire, c'est peut-être pas la bonne idée. Pareil, il y a un autre film, surtout pas tomber dans le piège, c'est Un jour sans fin. Surtout pas avoir lors d'un premier date, Puisque, est-ce que vous savez combien de temps a passé Bill Murray dans sa boucle temporelle?
Ah, je crois que c'était un truc. Oui, j'avais donné l'info dans un précédent podcast.
Oui, je les ai tous écoutés pour m'en rappeler.
10 ans, je pense.
Mais combien? Il passe 40 ans.
40 ans, ouais.
Donc, pareil, si vous êtes pressé, que vous comptiez pécho le jour même, bon, bah, évitez.
Oui, d'accord.
Allez, dernier film avec un petit bonus. Est-ce qu'on va voir le successeur pour un premier date? Et ça, vous répondez pas. Je réponds à la question. Pose la question directement à Xavier.
Ah.
Moi, je pense que oui, parce que le film peut cliver, mais le film suscite énormément de dialogues. Alors, peut-être ça retarde le coït.
Ça dépend d'humeur.
Mais en même temps...
Oui, ça le retarde, c'est certain.
Voilà.
Ça, c'est
sûr. Mais plus c'est long, plus c'est bon.
Voilà. Effectivement.
Non, là, je pense que c'est un bon premier film pour un premier date, parce que t'as envie d'en parler après. Et si t'as peur d'avoir des blancs avec la personne parce que tu t'entends pas avec elle, au moins tu parles du film.
C'est-à-dire que t'as des blancs, mais t'as quand même envie de la pécho. Bon, ça, c'est...
Oui, non, mais parfois, tu sais, tu peux avoir, je sais pas, il se passe rien, il y a pas de magie. Et bah, tu parles du film au moins, quoi.
Ouais, effectivement. Ouais. Bah, je suis d'accord avec vous. Très bien, c'est
bon. Et bah, écoute, j'espère que si vous avez un date ce soir, vous suivrez les conseils de.
Oui, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu
de
le successeur.
Évidemment. Alors, Xavier, est venu le moment de te poser une question cruciale. Aimerais-tu que je te raconte des anecdotes croustillantes concernant le film Mother?
Ah bah oui.
Ça te ferait plaisir.
Avec volonté.
Eh bah écoutez. Alors déjà, pour commencer, on n'entend aucun prénom dans le film, je vous l'avais dit tout à l'heure, aucun prénom n'est attribué, et donc dans le générique de fin, c'est him, her, enfin, c'est ça quoi, il n'y a pas de prénom dans le film. Ensuite, ce film était tellement éprouvant à jouer que Jennifer Lawrence a fait une pause d'un an juste après le tournage, vous imaginez? C'est assez fou quand même, et ça se voit sur son visage quoi, que ça l'atteint quoi. Ouais. Jennifer Lawrence, encore, est pieds nus durant tout le film. C'est son idée, ne faire qu'un avec la maison. Et du coup, ça a créé tout un truc où les techniciens devaient faire toujours très attention à ce qu'il n'y ait rien sur le sol, quoi. Bah, pour préserver les pieds de Jennifer Lawrence.
Des petites échardes.
Les deux frères qui s'entretuent dans le film, on en parlait tout à l'heure, sont de véritables frères dans la vraie vie, figurez-vous. Brian Gleeson et Donald Gleeson, qui a joué dans ce film... Et s'il était temps, vous vous souvenez de ce film, comédie romantique sur le temps comme ça?
Ah oui, bien sûr.
Ouais, on le voit deux secondes dans le film, enfin dans Mother. Mais ce sont des vrais frères dans la vie.
Et ils jouent pas dans Star Wars?
Oui, oui.
Exactement, ouais.
Le dernier, ouais.
Un méchant.
Dans le film, il y a tout un truc autour de la couleur jaune. On n'en a pas parlé. Jennifer Lawrence boit un médicament jaune. Elle repeint son mur en jaune. Pfeiffer lui prépare une citronnade. Un enfant urine sur le sol, etc., etc. Bref, tout un truc avec le liquide et la matière jaune. Est-ce que vous savez pourquoi?
Non.
Alors. Non. Bah, je sais pas non plus, aucune explication. je peux pas vous dire. Je sais pas.
Il y avait un kiff.
Désolé, mais j'en sais pas plus.
Il y avait un discount sur le jaune.
Jennifer Lawrence, encore une fois, était tellement impressionnée par le jeu de Michelle Pfeiffer qu'elle en oublia quelquefois ses répliques. Elle a même été déstabilisée par la clarté des yeux de Pfeiffer en oubliant son texte. Donc, assez incroyable. Et c'est vrai que Pfeiffer, est-ce que c'est pas elle, pas la star du film, mais celle qui. Enfin, elle a un jeu dans le film.
Quand elle débarque, il se passe un truc. Ouais.
Vraiment, elle est terrifiante, un peu. Michelle Pfeiffer d'ailleurs qui a accepté de jouer dans le film alors qu'elle n'avait rien compris au script. Elle a dit à Aronofsky, j'ai rien compris mais c'est ok pour moi, donc je veux bien jouer.
Allez hop.
Jennifer Lawrence, elle, durant la lecture du script, était tellement énervée qu'elle a pris le scénario et elle l'a jeté contre le mur de son salon, figurez-vous.
Ouais, elle en fait trop là quand même.
Non, franchement, elle l'a vécu intensément.
Ouais, je crois.
Elle l'a vraiment vécu intensément. Le briquet du perso de Ed Harris dans le film joue un rôle important, et sur ce briquet il y a un logo. Eh bien, ce logo est celui du peuple berbère en Afrique du Nord. Est-ce que vous savez pourquoi?
Non.
Non, niet.
Eh bien, moi non plus, pareil, je sais pas. J'ai pas d'explication, en fait, je sais pas. Mais c'est le logo du peuple berbère.
C'est bien croustillant, ça.
Donc, alors, le tournage était hyper éprouvant pour Jennifer Lawrence, si bien que les techniciens lui ont offert un espace comme ça, une sorte de sas de décompression. C'était une petite tente où, à l'intérieur, il y avait plein de bonbons. Il y avait les Kardashians en boucle à la télé. Et en fait, elle allait dans cette tente et elle sortait de l'oppression du film et regardait les Kardashians mangeant des bonbons, puis après avec plein de couleurs comme ça dans la tente.
Je sais pas si t'as envie de te faire, enfin, tu peux te faire opprimer en regardant les Kardashians aussi. Quand même.
Ouais, mais c'est comme ça qu'elle a dû vivre le truc, quoi. Ça se décompression et après elle retournait jouer. Sinon, c'était trop dur à elle, trop dur pour elle de rejouer ce personnage. Et enfin, le titre du film Mother contient un point d'exclamation à la fin de Mother. Est-ce que vous savez pourquoi?
Toi non plus?
Fois je sais en fait.
Ah oui, si, j'ai.
Mais t'es tombé dans le piège, sais. Il y a un point d'exclamation à la fin de Mother parce que Darren Aronofsky a dit que ça symbolisait les 30 dernières minutes du film. Comme ça part en vrille à la fin, et ben on a mis un point d'exclamation à Mother. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un point d'exclamation.
Il n'y a pas de majuscule aussi. C'est un Mother sans majuscule et tout le générique est sans majuscule à part un mot.
C'est vrai.
Lui.
On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question pour toi, Xavier, le dernier film que tu as vu au cinéma?
Bon, c'est pas très original, mais c'est Zone of Interest.
Ah, et alors, est-ce que tu as aimé?
Oui, vraiment, c'est un grand film. C'est, je crois, c'est le meilleur film, et pourtant il y en a des sacrés, hein, mais c'est un des meilleurs films qui parle de ça.
Pour moi, c'est un chef-d'œuvre.
Ouais, c'est un
chef-d'œuvre. Je le classe au rang des chefs-d'œuvre.
Je suis d'accord.
Le dernier film que tu as vu via une plateforme?
Le Cercle des Neiges.
Alors, est-ce que tu as aimé?
Oui.
Moi, j'ai trouvé ça très, très cool. Et après, j'ai lu pas mal d'interviews de Bayona, le réalisateur, qui disait qu'il a travaillé sur ce film pendant 11 ans. Mmh. Et il a eu des interviews avec tous les survivants. Et en gros, chaque petit détail durant ces 11 ans était pris en considération. Et c'est pour ça que ce film est aussi proche de ce qui s'est passé.
Oui, ça se sent. On sent une véracité des choses. Ouais.
Et surtout, ce qui m'avait marqué, on en avait parlé un peu, je crois, Nemo, dans un épisode.
Ouais.
Mais ce qui m'a marqué, c'est le fait que ce film soit aussi immersif, on ressent les choses. Il y a une scène où à un moment donné, ils se retrouvent sous la neige à l'intérieur de l'avion, ils n'arrivent plus à respirer, et la façon dont ils filment cette scène, on ne respire plus avec les gens aussi.
Même c'est... le son et tout, c'est incroyable.
Ouais, c'est assez bluffant. La dernière série que tu as regardée?
Alors, The Crown, mais en même temps, dernièrement, je crois que c'est vraiment la dernière que j'ai vue, je crois, c'est Sambre. Sur
je connais
France
pas.
2. Oui.
Ça raconte quoi?
Alors, c'est sur c'est Jean-Xavier de Lestrade qui réalise ça. C'est sur l'affaire, une affaire d'un violeur qui a sévi pendant 30 ans le long de la Sambre ils ont mis vraiment 30 ans pour le trouver. Et je trouve que voilà, la série apporte à la télé française une dramaturgie qui est différente et le temps de chaque épisode, le temps qu'il prend, fait du bien, je trouve, par rapport à ce qu'on voit d'habitude.
Avoir durant un date, ça, John, ou le tueur de la Sambre?
Je vous le conseille. Oui, <d'accord>.
La dernière chanson que tu as écoutée, Xavier?
Alors, c'est The Waiting Line de Lily G.
Question musique, c'est la première fois qu'elle apparaît dans le dernier et la dernière. Je vais la mettre maintenant. Le dernier concert auquel tu as assisté?
Concert?
Ouais.
Je crois que c'est Véronique Sanson.
Ok.
À Tours. Ouais.
Et alors, c'est toujours aussi bien?
Ouais, bah ouais, parce que ma mère était fan de Véronique Sanson, donc j'ai grandi avec ses chansons. Donc je suis aussi. J'aime beaucoup. Enfin, je connais toutes ses chansons.
Ok, cool. Sanson, voilà. Le dernier livre que tu as lu?
Le dernier livre que j'ai lu, alors c'est pas très original, mais je l'ai découvert tardivement par rapport à tout le monde, c'est Triste Tigre. Mais je suis en train aussi de relire, j'arrive presque au bout, c'est Journal d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir.
Ok. Voilà. Le dernier jeu vidéo auquel tu as joué, même si ça remonte?
Je pense à Angry Birds.
Ah, sur l'iPhone?
Moi, oui.
Ok, d'accord.
Ah ouais, je suis pas très jeu vidéo.
La dernière BD que tu as lue?
Alors ça, pareil, je ne suis pas un grand lecteur de BD, mais c'est Blaise de Dimitri Planchon,
okay.
Dont j'ai fait, parce qu'après ça a été adapté en film d'animation et j'ai fait des voix. Et donc voilà, quand je savais que j'allais faire ce projet, j'ai lu et c'est super bien, super bien.
Alors le dernier objet culturel que tu as acheté, ça peut être un album, un film, un t-shirt, enfin lié au cinéma ou à la musique, peu importe.
Bah, c'est très clair, c'est un DVD de Chabrol, d'un film que je n'avais jamais vu et que je cherchais depuis un moment, c'est Les Godelureaux, qui est un vieux film qui n'est pas très réussi, mais voilà.
Alors je tiens à préciser que tu avais aussi proposé pour ce podcast La Cérémonie,
oui,
de Chabrol, un film que j'adore, j'ai longtemps hésité avec celui-là. Je me suis dit, c'était intéressant aussi de parler de Mother, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Mother que c'était pas mal de le décrypter un petit peu. Et enfin, le dernier artiste que tu as suivi sur Insta, si t'as Insta ou Twitter, peu importe.
Sur Insta, oui. J'ai découvert une chorégraphe grecque qui s'appelle Zoï Tatoupoulos, je crois, qui fait des chorégraphies absolument hallucinantes.
Voilà. Très bien.
Ouais.
Ce podcast est désormais terminé. Xavier, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu? Alors, on a beaucoup parlé, le successeur qui est sorti hier. Est-ce qu'il y a déjà un troisième film en tête?
Oui.
Ah, déjà, ça y est?
Oui, il y a déjà un troisième film en tête, en écriture.
Ok, d'accord, très bien. Que tu espères sortir quand, si tout se passe bien?
aucune idée. Il est encore voilà, moi je prends beaucoup de temps à l'écriture pour que tout le reste après aille très vite. Donc non, j'ai encore en plein dans l'écriture, donc je pense que j'ai encore bien un an et demi, deux ans d'écriture minimum.
Et là, donc t'as travaillé sur Tout va bien sur Disney+, donc oui. Une série. La série, c'est aussi quelque chose qui te tente ?
Ouais, tout à fait. En écriture, peut-être pas. Je pense pas être capable, quoique bon, je dis ça, mais peut-être que si le sujet me plaît, je le ferai. Mais oui, je trouve que... On m'en a proposé plein, auxquels je n'ai pas forcément honoré, dans le sens où je me sentais pas, le sujet me plaisait pas, ou mais là avec Camille de Castelnau et le sujet du film, de la série, ça me vraiment, j'ai adoré en fait cette expérience que j'aimerais vraiment renouveler.
Et alors l'acting dans tout ça?
L'acting dans tout ça, le Covid est passé par là, donc j'avais fait un spectacle juste avant le Covid, on devait faire une tournée, qui sait, voilà. Qui n'a pas pu se faire, et donc du coup aussi là je vais jouer dans un film de Costa Gavras.
Oh cool.
Et le théâtre pour le moment rien, mais j'espère que ça va venir.
Très bien, écoute, merci d'être venu Xavier dans le podcast, c'était merci un plaisir. C'est la fin de cet épisode, nous on se retrouve jeudi prochain, bye tout le monde.
Bye.
Au revoir.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.